Chapitre 3. Autre forme du combat dans le gouffre. Tel était l'être auquel, depuis quelques instants, Gilliatt appartenait. Ce monstre était l'habitant de cette grotte. Il était l'effrayant génie du lieu, sorte de sombre démon de l'eau. Toutes ces magnificences avaient pour centre l'horreur. Le mois d'auparavant, le jour où pour la première fois Gilliatt avait pénétré dans la grotte, la noirceur ayant un contour, entrevue par lui dans les plissements de l'eau secrète, c'était cette pieuvre. Elle était là chez elle. Quand Gilliatt, entrant pour la seconde fois dans cette cave à la poursuite du crabe, avait aperçu la crevasse où il avait pensé que le crabe se réfugiait, la pieuvre était dans ce trou, au guet. Se figure-t-on cette attente? Pas un oiseau n'oserait couver, pas un œuf n'oserait éclore, pas une fleur n'oserait s'ouvrir, pas un sein n'oserait allaiter, pas un cœur n'oserait aimer, pas un esprit n'oserait s'envoler, si l'on songeait aux sinistres patiences embusquées dans l'abîme. Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou, la pieuvre l'avait happé, elle le tenait. Il était la mouche de cette araignée. Gilliatt était dans l'eau jusqu'à la ceinture, les pieds crispés sur la rondeur des galets glissants, le bras droit étreint et assujetti par les enroulements plats des courroies de la pieuvre, et le torse disparaissant presque sous les replis et les croisements de ce bandage horrible. Des 8 bras de la pieuvre, 3 adhéraient à la roche, 5 adhéraient à Gilliatt. De cette façon, cramponnée d'un côté au granit, de l'autre à l'homme, elle enchaînait Gilliatt au rocher. Gilliatt avait sur lui 250 suçoirs. Complication d'angoisse et de dégoût. Être serré dans un poing démesuré dont les doigts élastiques, longs de près d'1 mètre, sont intérieurement peints de pustules vivantes qui vous fouillent la chair. Nous l'avons dit, on ne s'arrache pas à la pieuvre. Si on l'essaye, on n'est plus sûrement lié. Elle ne fait que se resserrer davantage. Son effort croît en raison du vôtre. Plus de secousses produit plus de constrictions. Gilliatt n'avait qu'une ressource, son couteau. Il n'avait de libre que la main gauche, mais on sait qu'il en usait puissamment. On aurait pu dire de lui qu'il avait 2 mains droites. Son couteau, ouvert, était dans cette main. On ne coupe pas les antennes de la pieuvre. C'est un cuir impossible à trancher. Il glisse sous la lame. D'ailleurs, la superposition est telle qu'une entaille à ses lanières entamerait votre chair. Le poulpe est formidable. Pourtant, il y a une manière de s'en servir. Les pêcheurs de cercle la connaissent. Qui les a vus exécuter en mer de certains mouvements brusques le sait. Les marsouins la connaissent aussi. Ils ont une façon de mordre la sèche qui lui coupe la tête. De là, tous ces calmars, toutes ces sèches et tous ces poulpes sans tête qu'on rencontre au large. Le poulpe, en effet, n'est vulnérable qu'à la tête. Gilliatt ne l'ignorait point. Il n'avait jamais vu de pieuvre de cette dimension. Du premier coup, il se trouvait pris par la grande espèce. Un autre se fût troublé. Pour la pieuvre comme pour le taureau, il y a un moment qu'il faut choisir. C'est l'instant où le taureau baisse le cou. C'est l'instant où la pieuvre avance la tête. Instant rapide. Qui manque ce joint est perdu. Tout ce que nous venons de dire n'avait duré que quelques minutes. Gilliatt, pourtant, sentait croître la succion des 250 ventouses. La pieuvre est traître. Elle tâche de stupéfier d'abord sa proie. Elle saisit, puis attend le plus qu'elle peut. Gilliatt tenait son couteau, les suçions augmentaient. Il regardait la pieuvre qui le regardait. Tout à coup, la bête détacha du rocher sa 6e antenne et, la lançant sur Gilliatt, tâcha de lui saisir le bras gauche. En même temps, elle avança vivement la tête. Une seconde de plus, sa bouche anus s'appliquait sur la poitrine de Gilliatt. Gilliatt saignait au flanc et les deux bras garrottés étaient morts. Mais Gilliatt veillait. Guetté, il guettait. Il évita l'antenne, et au moment où la bête allait mordre sa poitrine, son poing armé s'abattit sur la bête. Il y eut deux convulsions en sens inverse, celle de la pieuvre et celle de Gilliatt. Ce fut comme la lutte de deux éclairs. Gilliatt plongea la pointe de son couteau dans la viscosité plate et, d'un mouvement giratoire pareil à la torsion d'un coup de fouet, faisant un cercle autour des deux yeux, il arracha la tête comme on arrache une dent. Ce fut fini. Toute la bête tomba. Cela ressembla à un linge qui se détache. La pompe aspirante détruit, le vide se défit. Les 400 ventouses lâchèrent à la fois le rocher et l'homme. Ce haillon coula au fond de l'eau. Gilliatt, haletant du combat, put apercevoir à ses pieds sur les galets deux tas gélatineux informes, la tête d'un côté, le reste de l'autre. Nous disons le reste, car on ne pourrait dire le corps. Gilliatt, toutefois, craignant quelques reprises convulsives de l'agonie, recula hors de la portée des tentacules. Mais la bête était bien morte. Gilliatt referma son couteau.